France Inter.
Bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, la dernière proposition en date de Benjamin Netanyahou. Il laissera aux dirigeants du Hamas l'occasion de fuir en exil s'ils acceptent de rendre les armes. Nous verrons avec Michel Paul en direct de Jérusalem quelles sont désormais les perspectives de trêve dans la bande de Gaza. À la une également ce soir, le coup de gueule de Donald Trump, très remonté cet après-midi et même furieux contre Vladimir Poutine qui tarde à s'engager sur une trêve en Ukraine. En France, et si Marine Le Pen était empêchée de se présenter à la prochaine présidentielle, hypothèse plausible, ça dépendra du jugement qui sera rendu demain. Nous l'évoquerons avec notre invité, le politologue Martial Foucault. Et puis nous verrons dans ce journal pourquoi les Finlandais sont, pour la 8e année consécutive, le peuple le plus heureux au monde. Enfin, nous irons au stade Pierre-Mauroy de Lille, c'est du football, à 1h30 du coup d'envoi du derby du Nord, Lille-Lens. Le temps de demain, lundi, Céline Dacosta, eh bien on va démarrer la semaine sous le soleil.
Oui, et globalement, ce sera la tendance toute la semaine prochaine avec des températures vraiment printanières l'après-midi.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. La carotte et le bâton, version Netanyahou. Alors qu'Israël a poursuivi aujourd'hui ses bombardements meurtriers sur Gaza, le Premier ministre a fait aujourd'hui cette proposition aux dirigeants du Hamas.
Nous sommes prêts à négocier. Le Hamas déposera ses armes. Ses dirigeants pourront partir à l'extérieur. Nous prendrons en charge la sécurité générale à Gaza et permettrons la réalisation du plan Trump, le plan d'émigration volontaire. C'est le projet. Nous sommes prêts à en discuter à tout moment.
Benjamin Netanyahou, aujourd'hui, lors d'une réunion de son cabinet, je précise qu'Emmanuel Macron s'est entretenu aujourd'hui avec le Premier ministre israélien pour l'appeler à mettre fin aux frappes sur Gaza et à revenir au cessez-le-feu. Bonsoir Michel Paul.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Vous êtes en direct de Jérusalem, RFI, pour France Inter. Quand Benjamin Netanyahou propose l'exil aux dirigeants du Hamas, en fait, à qui s'adresse-t-il précisément ?
Oui, eh bien, Benjamin Netanyahou n'a pas donné plus de précisions. Il s'est contenté de dire que la pression militaire sur le Hamas commençait à porter ses fruits. Il n'a pas nommé les dirigeants qu'il voudrait voir partir. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment qui dirige le Hamas à l'heure actuelle. Le nom de Mohamed Sinwar, bien sûr, vient sur les lèvres depuis la mort de son frère, Yahya Sinwar. Le Hamas a indiqué que le dépôt des armes était une ligne rouge, mais la situation que propose Netanyahou peut rappeler le siège de Beyrouth par l'armée israélienne en 1982, qui avait entraîné le départ de Yasser Arafat et des combattants de l'OLP vers la Tunisie. Par ailleurs, Israël a nommé aujourd'hui un chef de la nouvelle administration chargé de favoriser l'émigration qualifiée de volontaire des Gazaouis. C'est le plan prôné par Donald Trump. Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a estimé que jusqu'à 40% des Gazaouis seraient prêts à partir.
Michel, hier soir, le Hamas, comme Israël, ont tous les deux reçu une nouvelle proposition de trêve de la part des médiateurs. Alors, où en est la perspective de cette nouvelle trêve, Michel ?
Le Hamas accepte de libérer 5 otages. Israël en réclame le double et a transmis une contre-proposition qui, souligne le bureau de Netanyahou, a été concoctée en pleine coordination avec les Américains. On parle d'une trêve de plusieurs semaines pour l'Eid el-Fitr qui vient de débuter aujourd'hui et pour la Pâque juive qui commence dans une dizaine de jours. Rien de très concret à ce stade, mais un responsable israélien reconnaît qu'il y a une avancée, même si le fossé entre les positions reste profond, et Benjamin Netanyahou le réaffirme, la négociation se déroulera désormais sous la pression du feu.
Michel Paul, en direct de Jérusalem et toujours dans la bande de Gaza, le Croissant Rouge palestinien affirme avoir retrouvé 14 secouristes tués il y a une semaine par des tirs de l'armée israélienne sur des ambulances. Ça se serait passé dans le sud de l'enclave. Et retenez encore que Benjamin Netanyahou se rendra mercredi en Hongrie jusqu'à dimanche, un déplacement en dehors d'Israël donc, et ça malgré le mandat d'arrêt international de la CPI, la Cour pénale internationale, qui l'accuse de crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza. Donald Trump se dit donc très énervé et même furieux contre Vladimir Poutine, accusé de tarder à s'engager dans une trêve en Ukraine. Il le dit dans une interview accordée aujourd'hui à la chaîne NBC. Le président américain menace même la Russie de sanctions si l'on ne parvient pas, dit-il, à un accord pour mettre un terme au bain de sang en Ukraine dont il pense que la faute revient à la Russie. Un changement de ton apparent, mais qui n'en est peut-être pas un, Loïc Loury.
Près d'une semaine après les discussions de Riyad, Donald Trump serait-il frustré des maigres résultats obtenus ? Je pense, assure-t-il aujourd'hui à NBC, que c'était la faute de la Russie, tout en se disant très énervé contre Vladimir Poutine. « Si nous ne sommes pas capables de parvenir à un accord, menace-t-il, j'imposerai des droits de douane secondaires sur tout le pétrole qui sort de Russie. » Donald Trump passera-t-il des paroles aux actes ? Rien n'est exclu, venant d'un président qui promettait une paix rapide et dont la patience n'est pas la première vertu. Pour autant, ce n'est pas la première fois que le milliardaire semble ainsi mettre la pression sur Moscou, évoquant déjà il y a un mois des sanctions à grande échelle. Quelques heures plus tard, Donald Trump avait toutefois redit avoir confiance en Vladimir Poutine. Les menaces proférées ce matin jusqu'à preuve du contraire ne remettent donc pas en cause le rapprochement amorcé entre les deux pays. New York, Loïc Loury, France Inter.
L'aide internationale arrive peu à peu en Birmanie. La population fait face désormais à un grand risque d'épidémie. Le bilan, toujours très provisoire, est de plus de 1700 morts et au moins le double de blessés. Demain matin, l'ONG Handicap International enverra une première mission d'urgence en Birmanie. Elle partira de Rangoon en direction de Mandalay pour prêter main forte aux hôpitaux. Florence Denis est la directrice générale adjointe, responsable également des opérations chez Handicap International.
On a préparé une équipe d'urgence qui va partir en voiture demain matin avec du matériel, des béquilles, des civières, des fauteuils roulants, ce genre de choses, pour permettre en fait de décharger les hôpitaux des blessés qui peuvent déjà partir et qui peuvent rentrer éventuellement dans leur famille. Puisque nous, en tant qu'Handicap International, on se concentre bien sûr, dans le cas d'un tremblement de terre, sur les gens blessés. Et donc, on fait face à forcément des fractures des membres inférieurs, des fractures de membres supérieurs. On fait face également à des problématiques à la colonne vertébrale pour certaines personnes qui auront été écrasées par du béton. Donc nous, notre objectif est de rejoindre les hôpitaux avec qui on travaillait déjà, notamment les services d'ambulance de la ville de Mandalay. Et donc là, notre idée est de réussir à les rejoindre et de leur donner cet équipement.
La directrice générale adjointe d'Handicap International chez nos confrères de France Info. Retenez également que la Croix-Rouge lance un appel pour recueillir plus de 100 millions d'euros en faveur des Birmans.
France Inter, Éric Delvaux.
Marine Le Pen a beau répéter que la peur n'évite pas le danger, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale risquera gros demain, au moins sur ses ambitions présidentielles, si le tribunal correctionnel devait la condamner à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, ce qui la priverait donc d'une quatrième candidature à la présidentielle, celle de 2027. Le préjudice est estimé à près de 7 millions d'euros. Bonsoir Martial Foucault.
Bonsoir.
Vous êtes professeur des universités à Sciences Po Paris, ancien directeur du CEVIPOF. Une Marine Le Pen empêchée de se présenter à la présidentielle, ça aurait quelles conséquences pour elle et pour son parti ?
Pour elle, certainement, les conséquences que vous venez de rappeler, il faut attendre de savoir si effectivement il y aura ou non une exécution provisoire de cette peine d'inéligibilité, puisque au fond le scénario est totalement différent. Sans l'exécution provisoire, Marine Le Pen, en fonction de la peine qui lui serait infligée, pourrait encore caresser l'espoir d'être candidate en 2027, sous réserve que la peine ne soit quand même pas au-delà de 2 ans, l'échéance s'approche. Dans le cas d'une exécution provisoire, il va sans dire que Marine Le Pen devra certainement renoncer, même si elle devait faire appel, c'est le principe de l'exécution provisoire, renoncer à ses ambitions présidentielles en 2027. Et donc, le parti va devoir réfléchir et chercher un ou une candidate pour lui succéder.
Alors, sans faire forcément de la politique fiction, Jordan Bardella à l'Élysée, Marine Le Pen à Matignon, c'est un scénario envisageable au RN ?
C'est sans doute un scénario sur lequel les cadres du parti ont réfléchi depuis au moins novembre dernier, après le premier délibéré. Je dirais que la situation est totalement nouvelle pour le parti, parce que cela voudrait dire que la dynastie Le Pen viendrait qu'à disparaître dans l'histoire du parti. Jordan Bardella a eu l'occasion de conduire la campagne aux dernières législatives 2024. Souvenons-nous, près de 11 millions d'électeurs, et pour autant, derrière lui, le parti n'a pas réussi à conquérir cette majorité qu'il espérait à l'issue du premier tour. Donc,
vous nous dites que la marque Le Pen a encore de l'influence sur le parti ?
Sur le parti, avec une stratégie différente, bien sûr, Jordan Bardella se met dans, gérer dans les pas de cette stratégie de normalisation, dédiabolisation, mais Marine Le Pen a encore au sein du parti une véritable autorité, une stratégie, la campagne pourrait difficilement s'imaginer sans elle. Donc, et puis d'autres, je dirais d'autres personnalités, depuis quelques mois, quelques années, ont aussi pris la place dans cette architecture du Rassemblement National, messieurs Chenu, Tanguy, qui peut-être auront l'occasion de montrer qu'ils seraient de meilleurs candidats. Et donc, on ne peut pas écarter la possibilité d'une vraie, une vraie compétition au sein du parti pour contester aujourd'hui le rôle incarné par Jordan Bardella.
Et on découvrirait peut-être donc les candidatures plurielles au sein du RN. Dans la tribune dimanche ce matin, Marine Le Pen accuse les juges d'utiliser un droit de vie ou de mort, je cite, sur le parti. Est-ce que ce type d'argument renforce la défiance de son électorat et même au-delà envers la justice ?
C'est un argument qui est curieux parce qu'au fond, non, ce ne sont pas les juges qui vont décider de l'avenir politique de Marine Le Pen. Je m'explique. Les juges n'ont qu'un rôle, c'est de juger. Et donc les faits qui sont reprochés à Marine Le Pen et d'autres, hein, on pense au maire de Perpignan, Louis Alliot, c'est quand même le motif, c'est un détournement de fonds publics. Donc le juge ne fait qu'appliquer le droit. Et souvenons-nous, le Rassemblement National et avant le Front National était le parti qui condamnait l'affairisme, considérant que les autres partis politiques n'étaient pas propres. C'était des partis qui avaient eu maille à partir avec la justice. Et donc le parti se présentait comme celui qui pouvait incarner une alternative. Aujourd'hui, ça paraît curieux que cet argument ne soit plus mis en avant par le Rassemblement National. La question de défiance que vous évoquez, il est vrai que, quelle que soit la peine, et si elle est lourde, évidemment, cela va être considéré comme un jugement partial et une forme de procès politique. Bon, la réalité, c'est que on observe depuis plusieurs mois ce qui se passe aux États-Unis. On voit bien le principe de cette démocratie illibérale. Or, la démocratie libérale, elle repose sur l'idée de contester la règle de droit.
Merci.
Si dans notre pays, on commence à jouer avec cette règle de droit, alors effectivement, on a des lendemains démocratiques assez obscurs.
Merci beaucoup de cet éclairage. Martial Foucault, professeur des universités à Sciences Po Paris, l'ex-Front National est donc suspecté d'avoir employé à son profit des assistants financés par les institutions européennes. Un scandale de corruption qui est loin d'être isolé parmi les députés qui siègent à Bruxelles, Elsa Loussarne.
Oui, on se rappelle du Modem, accusé de faits similaires. Des anciens eurodéputés et cadres du parti ont été jugés et pour la plupart condamnés fin 2023, mais aussi plus récemment du scandale Huawei qui a fait la une du journal télévisé en Belgique.
Venons-en à ce nouveau scandale de corruption au Parlement européen. C'est une information RTBF. La police fédérale a mené des perquisitions ce matin. Il est question de corruption.
Cette fois-ci, ce sont des lobbyistes du groupe chinois de télécom inscrits au registre de la transparence du Parlement qui sont suspectés d'avoir corrompu plusieurs actuels et anciens eurodéputés en leur offrant régulièrement des cadeaux comme des places de foot, des voyages ou des smartphones. Mais c'est surtout le scandale du Qatar Gate, plus grosse affaire de corruption de l'histoire des institutions européennes, qui a créé une véritable onde de choc politique et médiatique fin 2022.
C'est un coup de tonnerre, une scène digne d'un polar. Des valises de billets retrouvées dans des chambres d'hôtel au domicile d'élus du Parlement européen. Au total, 1 500 000 euros en petites coupures qui auraient été versées par le Qatar pour s'attirer peut-être les faveurs des parlementaires.
Parmi les suspects, Eva Kaili, l'une des vice-présidentes du Parlement européen. Dans les semaines qui suivent son interpellation, un texte contre la corruption est évoqué. 2 ans et demi plus tard, il est toujours en négociation.
Le journal suédois Dagens ETC juge absurde les accusations de la Turquie qui a interpellé l'un de ses reporters jeudi dès sa descente d'avion à Istanbul. Il doit répondre, le journaliste, de terrorisme et d'insulte au président Recep Tayyip Erdogan. La Turquie a décidément les journalistes dans le nez. Elle cherche même à emprisonner tous ceux qui médiatisent la manifestation contre le régime. Erdogan, Marie-Pierre Véraud.
Des accusations très lourdes pour le journaliste suédois passible de plusieurs années de prison. Les autorités turques précisent qu'il lui est reproché non son travail de journaliste, mais d'avoir été présent lors d'une manifestation contre le gouvernement turc à Stockholm. Alors qu'Ankara s'opposait à l'adhésion de la Suède à l'OTAN, il s'est aussi rendu à plusieurs reprises en zone kurde, à Kandil notamment. L'envoyé spécial de la BBC, lui, s'est vu notifier son expulsion pour atteinte à l'ordre public. Devant le tollé international, le gouvernement turc a assuré qu'il n'avait en fait pas les accréditations nécessaires. Les manifestations d'une ampleur inédite depuis plus de 10 ans rendent les autorités nerveuses. Plusieurs chaînes d'opposition dans un paysage médiatique déjà accaparé par les médias pro-gouvernementaux ont été sanctionnées. Le climat pour la presse en Turquie n'a cessé de se dégrader ces dernières années, particulièrement pour les journalistes kurdes régulièrement emprisonnés. La colère qui monte contre le gouvernement ne devrait pas apaiser la situation. Istanbul, Marie-Pierre Véraud, France Inter.
Emmanuel Macron donnera ce soir le coup d'envoi aux deux journées, demain et après-demain, consacrées à l'avenir des océans. SOS Sauvement, SOS Océan, c'est cet événement international à Paris donc. Il débutera avec un dîner au Musée de l'Homme et puis des rencontres demain au Musée de la Marine. Et puis à partir de mardi et jusqu'à vendredi à Lourdes, l'Assemblée plénière des évêques de France. Mais dès demain, la conférence des évêques de France organisera une sorte de point d'étape sur les mesures mises en place pour lutter contre les violences sexuelles dans l'Église. Quel est le pays au monde où les habitants sont les plus heureux? Eh bien, c'est la Finlande. Pour la 8e année consécutive, selon la dernière étude sous l'égide de l'ONU, les Finlandais, donc, qui s'accommodent assez bien du bonheur, malgré la menace russe à ses frontières, Ottilia Ferré.
Un Finlandais heureux, on le trouve en général dans la nature ou dans un des 3,5 millions de saunas que compte le pays. 90% des habitants s'y rendent au moins une fois par semaine, un lieu comme un sanctuaire où le corps et l'esprit de Carolina et Mia lâchent prise.
On transpire tous les soucis en quelque sorte.
Il fait 110 degrés.
Allez, direction le lac. L'eau est autour de 0 degré. Rien d'autre ne peut me procurer un tel sentiment.
Cette pratique nordique illustre parfaitement le sisu, le concept le plus finlandais qui soit, selon Elisabeth Lati, chercheuse en psychologie.
Le sisu, c'est la force intérieure et le courage. Il est souvent invoqué dans l'adversité, quand on est l'outsider, comme la Finlande l'a été dans le passé. Quelque chose se passe à l'intérieur de nous quand on doit se montrer à la hauteur, et les défis ouvrent la voie à la créativité.
C'est ce fameux sisu qu'Alexis, 29 ans, est prêt à invoquer si les Russes voisins venaient à envahir de nouveau, comme ça a été le cas en 1939 durant la guerre d'hiver. Il est président d'un club de réservistes qui s'entraîne au tir au moins 3 fois par semaine.
On veut être capable de tirer mieux que nos voisins. Nos membres savent tirer sur une plaque de 20 cm à 150 mètres. Donc oui, si l'heure est venue de combattre, je suis prêt.
Il en faut visiblement plus que Vladimir Poutine pour saper le moral des Finlandais. À Helsinki, Ottilia Ferré, France Inter.
Le football avec cette 27e journée de Ligue 1, à 20h45, le derby du Nord. Lille recevra Lens, un match avec de forts enjeux pour décrocher quelques places européennes, beaucoup d'espoir. Bonsoir Jean-Pierre Blimaud.
Bonsoir Eric.
Vous êtes à Lille en direct du stade Pierre Mauroy. Lille, Lens, une rencontre qui, du point de vue sécuritaire, sera comme d'habitude très encadrée.
Oui, parce que c'est un derby qui déchaîne les passions ici dans le nord de la France. Le derby qu'on appelle du Nord entre la ville du Pas-de-Calais de Lens et la capitale du Nord, Lille, avec en plus un contentieux, puisqu'au match aller, les Lillois s'étaient imposés 2-0 au-delà du temps réglementaire, dans le temps additionnel. Il y avait eu un geste de provocation du gardien lillois Lucas Chevalier envers les supporters du stade Bollaert, qui n'étaient déjà pas contents de perdre. Alors donc, il y a peut-être de la revanche dans l'air aujourd'hui. Les questions de suprématie régionale, et les questions aussi que les supporters lensois soient bien surveillés. Ils seront 1000 exactement dans ce qu'on appelle le parcage adverse ici au stade Pierre Mauroy. La consigne a été donnée aux autres qui auraient des billets dans les tribunes de ne pas afficher leur couleur. Et puis sportivement, vous l'avez dit, c'est la course à l'Europe quand même ce soir entre les deux équipes, puisque Lille et Lens peuvent encore se qualifier pour les 3 compétitions européennes. Lille qui vient de quitter la Ligue des Champions au stade des 8e de finale, qui aimerait bien y retourner. Et puis Lens qui a dû se contenter du tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence cette saison. C'était la 3e Coupe d'Europe, alors que la saison dernière, les Lensois, eux aussi, avaient goûté à la Ligue des Champions.
Jean-Pierre Blimaud, Lille, Lens, donc à partir de 20h45. La mort à Hawaï de l'acteur américain Richard Chamberlain. Il avait 90 ans. Au début des années 90, il était devenu un incontournable des mini-séries télé comme Shogun, et un peu plus tard, il avait bouleversé le public en interprétant un prêtre dans le film Les oiseaux se cachent pour mourir, dont vous entendez derrière ma voix la bande originale. La musique des oiseaux se cache pour mourir, un rôle qui vaudra à Richard Chamberlain un Golden Globe en 1984. Le temps.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane en pleine nature pour des séjours inoubliables, par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Demain, il y aura du soleil pour tout le monde.
Oui, même si par endroits, il faudra être patient, notamment du sud-ouest au nord-est, où demain matin, on aura des brumes parfois épaisses qui auront du mal à se dissiper. Mais ensuite, l'après-midi s'annonce bien ensoleillé, avec quelques passages nuageux et du vent toujours près de la Méditerranée. Alors un vent de nord dans la vallée du Rhône, de la tramontane toujours à 80 km à l'heure, et puis un mistral qui va reprendre un petit peu du poil de la bête, puisqu'on aura des rafales jusqu'à 100 km à l'heure demain après-midi. Mais du vent, on aura aussi sur le reste du pays, dans une moindre mesure, hein, 20 à 40 km à l'heure. Mais c'est la fameuse bise, vous savez, ce vent de nord-est qui a tendance à rafraîchir l'atmosphère.
Et pourtant, les températures grimpent encore.
Oui, 13 à 18 degrés demain après-midi, jusqu'à 20-21 degrés sur le sud-ouest, jusqu'à 24 degrés sur le Var et le Languedoc. Des températures qui vont continuer à grimper dans les prochains jours. Jeudi, pour vous donner l'idée, la moyenne sera de 21 degrés sur l'ensemble du pays. Mais le matin, ça va rester frais. Demain également, 1 à 5 degrés sur la moitié nord, 6 à 10 sur la moitié sud, jusqu'à 13 près de la Méditerranée.
Céline Dacosta.